Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Autour de moi, comme d'habitude, et fidèle au poste, Philippe Christel. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Patrice.
Alors, nous avons Lucien Valdès qui va arriver aussi. Pour commencer, nous allons... Alors bien sûr Philippe, on vous retrouvera tout à l'heure, comme d'habitude, pour l'actualité européenne. Mais pour commencer, nous allons nous intéresser à l'Amérique. Actualité oblige avec les primaires républicaines et en plus, et plus particulièrement de l'Amérique et de son rapport avec la religion. Car tout semble imprégné de valeurs et de références religieuses, la politique, la morale, l'enseignement et jusqu'à la vie intime. Et pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir un politologue qui est Denis Lacorne. Bonsoir Denis Lacorne, vous venez juste d'arriver. Pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, vous êtes un spécialiste des États-Unis, vous avez publié il y a maintenant 5 ans « De la religion en Amérique » aux éditions Gallimard. Et d'après ce que vous m'avez dit, c'est qu'au mois de juillet, il y a une version anglaise qui vient de sortir.
Columbia University Press.
Avec, je crois, un chapitre en plus sur Obama.
Oui, exactement.
Voilà. La religion. Alors, en vous lisant, on est surpris de voir que la religion en Amérique, cette religion en Amérique a toujours passionné en positif et aussi en négatif les intellectuels français, et cela depuis le XVIIIe siècle. Comment expliquez-vous cet intérêt français pour la religion aux États-Unis ?
Intérêt parce que elle est différente de la. Disons, on vient d'un pays au XVIIIe siècle qui est qui est en train de se séculariser. C'est l'époque de Voltaire, c'est l'époque des grands critiques de toutes les religions, pas seulement la religion chrétienne. Et on a au même moment un pays qui est de façon prédominante protestant, qui est toujours d'ailleurs majoritairement protestant, donc c'est pas la même religion. Mais il y a plusieurs types de protestantisme, c'est-à-dire qu'il y a les puritains de la Nouvelle-Angleterre qui sont moqués ou dénoncés en des termes très vifs par Voltaire, mais aussi par, il y a un chapitre sur le fanatisme, par exemple dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est très critique à l'égard des puritains. Ils sont très critiqués par l'abbé Rénal, qui s'intéresse beaucoup à l'Amérique du Nord et qui voit chez eux de dangereux fanatiques, les puritains de la Nouvelle-Angleterre, et puis par ceux qui vont, Voltaire en poche ou l'abbé Rénal en poche, qui vont visiter l'Amérique du Nord, c'est-à-dire la Rochefoucauld-Liancourt, par exemple, ou Chateaubriand, qui eux-mêmes sont très très critiques aussi des puritains. Et alors ce qui est intéressant chez Voltaire, c'est que aucune des religions existantes n'est acceptable à ses yeux, il est très critique, sauf la religion des Quakers. Et les Quakers, Voltaire les a rencontrés en Angleterre, mais il y en a bien sûr de nombreux aux États-Unis, en Pennsylvanie. Pennsylvanie, c'est l'État qui a été créé par William Penn. Et Voltaire est enthousiaste dans ses lettres philosophiques. Et pourquoi ? Parce qu'il voit dans le quakerisme, dans le fond, une inversion de la religion catholique. C'est-à-dire, il l'admire parce que c'est une religion pour un âge où la religion décline. Et il l'appelle une religion sans prêtre, sans sacrement, sans hiérarchie. Donc pour lui, c'est l'utopie idéale. C'est ce qu'il souhaiterait voir en Europe. C'est une espèce de religion anti-religieuse. Et il va même jusqu'à dire dans ses lettres philosophiques que l'âge d'or a été pleinement réalisé à Philadelphie par William Penn. Et puis lorsque d'autres Français visitent Philadelphie, Voltaire en poche, ils vont être un peu surpris. Certains vont être très admiratifs, comme Brissot, par exemple. D'autres, comme Chateaubriand, sont beaucoup plus critiques. Ils découvrent un espèce de mercantilisme fait que les Quakers sont pas aussi géniaux, aussi extraordinaires qu'on pouvait le craindre. Mais fondamentalement, au XVIIIe siècle, le regard français sur la religion aux États-Unis est extraordinairement critique, la seule exception étant les Quakers.
Alors, vous faites aussi, dans votre livre, effondrer un mythe qu'on trouve souvent chez nos journalistes français, c'est que l'Amérique se serait fondée sur une liberté politique et une liberté religieuse. Il y a bien, au départ, en tout cas, de la part des puritains, une mainmise de la religion et des conséquences sur les autres communautés religieuses. Oui. Au départ, il n'est pas question d'avoir une liberté totale, ils veulent avoir une sorte de religion d'État.
Une théocratie.
Ouais.
Mais en même temps, ce qui est curieux, c'est que dans les récits fondateurs des États-Unis, il me semble qu'au départ, il y a deux récits fondateurs qui sont rivaux. L'un qui est profondément marqué par les lumières européennes, françaises et anglaises, et qui est le discours, dans le fond, des ce qu'on appelle les pères fondateurs, ceux qui ont, comme Jefferson, Washington, Madison, le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, ceux qui ont participé à la rédaction de la Constitution fédérale de 1787, son Bill of Rights, les 10 premiers amendements. Il y a une construction politique qui est très marquée par les Lumières et qui est très radicale et révolutionnaire. Elle institue une république fondée sur la souveraineté du peuple et sans qu'il y ait vraiment de référence importante à la religion, même si dans la Déclaration d'indépendance, on parle du Créateur, alors que dans la Constitution, il n'y a aucune référence à Dieu, ni même à un être suprême. Ça, c'est un premier récit. Et puis, paradoxalement, et ça inverse la chronologie, si vous voulez, au début du 19e siècle, à une époque, on constate que la Révolution française a échoué, ça a abouti à la terreur, et l'image de la France est très négative à ce moment-là. On a, c'est un mouvement romantique qui est quasiment universel, c'est-à-dire que on critique la raison, on redécouvre les émotions, la tradition, les vieilles religions, on découvre aussi les grands ancêtres. Et aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire redécouvrir les peuples fondateurs, les grands ancêtres? Ça va pas être les Saxons ou les Gaulois ou les Germains dans les tribus de la Germanie qui auraient, d'après Tacite, inventé la liberté. Ça va être, si on met entre parenthèses, les premiers colons en Virginie qui n'avaient pas de très grande motivation. C'était des chercheurs d'or qui voulaient faire du fric et rien d'autre. Donc si on oublie la première colonie de Virginie, si on oublie les Amérindiens qui ne sont pas très populaires, malheureusement, à cette époque, qu'est-ce qui reste? Eh bien, les plus vertueux des colons qui sont les Puritains débarqués en Nouvelle-Angleterre en 1620. Et donc, on va généraliser, on va prétendre que la vraie création de la nation, ça n'a plus rien à voir avec le 18e siècle, c'est les Puritains qui, grâce aux Mayflower, ont soi-disant inventé une forme républicaine de gouvernement, alors qu'en réalité, les critiques n'avaient pas complètement tort, c'était beaucoup plus des théocraties. Mais on va fantasmer sur les Puritains, et George Bancroft, qui est un peu le Michelet de la Révolution américaine, va même parler en termes de la sublimité des Puritains, et va tout à fait exagérer leur génie. Et Tocqueville, d'une certaine façon, dans le fameux deuxième chapitre de La démocratie en Amérique, le premier livre de La démocratie en Amérique, va dire à peu près la même chose. C'est le point, ça s'appelle, ce chapitre s'intitule Le point de départ, de la démocratie américaine, et il voit ce point de départ en Nouvelle-Angleterre. Donc il y a une espèce de nationalisation, si vous voulez, du récit de la Nouvelle-Angleterre, et cette formulation, cette Amérique qui serait chrétienne et puritaine, va laisser des traces jusqu'à aujourd'hui, puisque la plupart des candidats républicains conservateurs dans les primaires présidentielles aujourd'hui font référence de façon directe ou indirecte à cette création puritaine et laissent entendre que la construction politique de la nation américaine serait vraiment religieuse et non pas laïque ou détachée de la religion, comme l'avaient souhaité les pères fondateurs, qui sont aussi les inventeurs d'une séparation véritable de l'Église et de l'État.
Mais en plus, si je vous ai bien lu, ces puritains n'ont jamais remis en cause l'ordre royal à l'époque.
Mais non, parce qu'on est, les puritains de la Nouvelle-Angleterre, on est toujours dans le cadre d'un empire britannique. Alors, dans la gestion de l'empire, l'avantage des empires, c'est qu'on peut tolérer certains groupes considérés comme excessifs et on les envoie dans de lointaines provinces de l'empire. C'est le cas des puritains. D'autres sont restés, bien sûr, en Nouvelle-Angleterre, mais ceux-là étaient particulièrement agressifs et considérés dangereux par la monarchie anglaise. Donc, ils ont préféré, sont exilés d'abord à Leiden, à Leyde en Hollande, et puis ils ont pris des bateaux pour, notamment le fameux Mayflower, pour aller ensuite en Nouvelle-Angleterre. Et donc, d'une certaine façon, ils prenaient leur distance par rapport à la mère patrie, mais si vous lisez bien le fameux pacte du Mayflower, il est dédié au monarque anglais. Il déclare sa loyauté vis-à-vis de la monarchie anglaise. C'est pas un acte de rupture avec la mère patrie, alors que cet acte de rupture, c'est une création de Jefferson et de l'entourage des pères fondateurs, qui, eux, institue cette chose nouvelle qui est une république fondée sur la souveraineté du peuple. Alors c'est vrai, diront les critiques, ou diront certains des candidats aujourd'hui, oui, mais la déclaration d'indépendance, si on la lit bien, il est question d'un créateur qui donne des droits aux hommes. Ces droits sont la liberté, le bonheur, la recherche du bonheur. Mais il faut bien lire cette déclaration, c'est-à-dire que le dieu de la déclaration d'indépendance américaine, c'est un dieu voltairien, c'est un grand architecte qui, certes, donne des droits, mais disparaît. Ça n'est pas, comme l'a très bien dit un historien américain, Walter Burns, ça n'est pas le dieu jaloux de l'Ancien Testament qui vous sanctionne si vous respectez pas ses droits et la sanction peut être terrible, ça peut être, disons, une sanction éternelle, ça peut être l'enfer. Or là, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qui définit les droits? Qui leur donne un contenu? Qui les développe? C'est le peuple souverain qui coupe les ponts avec l'Angleterre et qui dénonce le monarque anglais et la monarchie anglicane comme une épouvantable tyrannie. Donc on a un acte de création républicain qui va d'ailleurs passionner les Français. Lorsque Jefferson et Madison luttent contre la prédominance, le fait qu'en Virginie il y a une église dominante qui n'est pas une église des puritains, c'est une église anglicane, lorsqu'ils dénoncent par une loi le projet de loi pour la liberté religieuse en Virginie de Jefferson, qui sera loi en 1786, qui sera l'année même de son passage au Parlement de Virginie traduit en français et publié in extenso par Desmonnier qui est un avocat de formation, qui est le secrétaire de Monsieur, c'est-à-dire le frère du roi, qui prend un peu la succession de Diderot et d'Alembert avec sa fameuse encyclopédie méthodique, qui est le premier ouvrage français substantiel où il y a 14 articles, chapitres, si vous voulez, consacrés aux États-Unis, un par État, un par les traits. Et un article s'appelle États-Unis, et dans l'article États-Unis, on trouve in extenso la traduction du texte de Jefferson pour la liberté religieuse, qui fondamentalement abolit les privilèges de l'Église anglicane en Virginie, interdit les Test Acts, c'est-à-dire la nécessité de jurer, de faire un serment religieux pour obtenir un emploi important en Virginie, qui institue, disons, une véritable séparation de l'Église et de l'État à l'échelle de la Virginie, qui est un État très puissant à l'époque aux États-Unis. Et ça va passionner les Français. Ça paraît en français en 1786, dans le deuxième volume de l'encyclopédie méthodique de Meunier. Et donc, 3 ans avant la Révolution française, on va débattre de la séparation de l'Église et de l'État telle qu'elle a été pensée, imaginée, défendue par deux Américains de taille, Jefferson et Madison.
Alors, la grande révolution religieuse qui va venir plus tard, c'est l'arrivée des évangélistes.
Oui, le grand réveil, les grands...
Voilà, alors là, on est au cœur de la religion américaine. Ouais. Pour une fois, la religion va venir du bas, et non sorte d'une hiérarchie, avec une liberté totale vis-à-vis des textes anciens, comme de la pratique. Et là, par rapport à l'Europe, il y a une vraie différence.
Oui. Alors, en Europe, il y a une confusion qui est faite jusqu'à aujourd'hui. Si vous regardez beaucoup d'articles rédigés à propos de la politique américaine, si on prend les élections depuis Carter jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on n'aime pas ce qui se passe aux États-Unis, le réflexe français, c'est de dire ils sont puritains. On a vu ça au moment de l'affaire DSK, mais il y a pas seulement. Donc, ils sont ou l'affaire Clinton, l'affaire Lewinsky. Or, c'est un réflexe qui montre une méconnaissance totale des transformations de la religion aux États-Unis, parce qu'il y a belle lurette que le puritanisme n'existe plus aux États-Unis. Et si on parle d'évangélisme, l'évangélisme devient la religion dominante au milieu du 19e siècle, avec les seconds grands réveils qui commencent dans les années 1830, les fameux camp meetings où on se réunit dans les bois pour lire la Bible et attendre une conversion possible. C'est le début des born again Christians. Or, l'évangélisme, dans ses premières formes, qui est méthodisme ou baptisme, l'évangélisme est en fait un rejet du puritanisme, du calvinisme pur et dur, c'est un rejet de la prédestination. La prédestination, elle est évidemment dure à vivre, puisqu'il n'y a pas moyen de savoir si on est un élu et non, quelles que soient ses activités, quel que soit son succès. On reste dans une incertitude totale. Seul Dieu est juge de votre salut, que vous soyez d'ailleurs pécheur ou non, et vous êtes très probablement pécheur. Alors que l'évangélisme est cette religion qui est d'abord facile à faire. On n'exige pas une connaissance intime des textes comme l'ont les calvinistes ou comme l'ont les puritains. Il suffit de lire la Bible et de s'auto-investir prédicateur. Et ça va quelque chose qui va être très, très facilement se développer au moment de la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Et l'évangélisme, c'est cette religion merveilleuse qui vous permet, au moment où vous reconnaissez votre vie, vos péchés à l'âge adulte, de vous convertir à l'âge adulte. C'est le moment où on devient chrétien régénéré, on devient born again Christian, et à ce moment-là, vous avez une quasi-certitude du salut. On sort de l'incertitude de la prédestination. Donc c'est une religion qui est très confortante, puisque elle vous donne pratiquement des certitudes, et même si vous retombez dans le péché, il y a toujours la possibilité du repentir qui est parfaitement admise dans la tradition évangélique. Et ça, c'est la religion dominante. Mais en France, on comprend pas bien le protestantisme en général, même s'il existe chez nous, mais il est très minoritaire, et on comprend très mal que l'évangélisme, ça n'a plus rien à voir avec le puritanisme. Et trop souvent, on continue à faire un amalgame entre puritanisme et évangélisme.
Alors, on va dénombrer un nombre incroyable d'églises qui vont se créer.
Il y en a des milliers.
Ouais. Vous expliquez que Tocqueville, lui, considère que c'est un danger pour la démocratie. Et pour lui, sa solution, c'est le catholicisme.
Oui, alors il est paradoxal et contradictoire, c'est-à-dire dans la démocratie en Amérique, il partage ce mythe dans le fond romantique de la grandeur des premiers puritains, il y voit le point de départ authentique de la démocratie américaine, donc en sous-estimant l'aspect théocratie et l'aspect punitif du puritanisme, puisqu'ils ont expulsé ceux qui ne pensaient pas comme eux, ils ont expulsé les Quakers du Massachusetts, ils ont expulsé Roger Williams, qui va puritain au départ, mais qui va devenir baptiste et qui sera le fondateur de l'État de Rhode Island. L'un des premiers, d'ailleurs, entre parenthèses, à penser à la séparation de l'Église et de l'État, et même à imaginer la phrase d'un mur de séparation entre l'Église et l'État, qui est une phrase qui va aussi être utilisée par Jefferson. Donc il y a ce moment-là qui est complexe, mais qui... Et qu'est-ce qui se passe après ? Transformation... je disais, avec les évangéliques, et une lecture tout à fait autre qui va marquer les comportements jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, si on prenez les primaires d'aujourd'hui, alors pourquoi est-ce qu'on parle tellement de religion aujourd'hui aux États-Unis? C'est un peu le paradoxe du calendrier des primaires. Les primaires, c'est pas comme en France, c'est pas une petite campagne nationale qui dure quelques semaines, c'est un espèce de marathon qui va d'état en état. Or, les premiers états où ça se passe, c'est l'Iowa, caucus de l'Iowa, où 60% des électeurs républicains sont des évangéliques. Ensuite, le New Hampshire, là, il y a peu d'évangéliques. Et puis, troisième état, la Caroline du Sud, où, à nouveau, les deux tiers des électeurs sont aussi des évangéliques très conservateurs du Sud, très proches du fondamentalisme. Et il faut bien comprendre que il y a plusieurs formes d'évangélisme. Il y a des formes blanches et noires, d'abord, les baptistes, l'Église baptiste, à cause du combat des luttes raciales et de la guerre de sécession, c'est scindé en deux. Il y a les Églises noires baptistes, qui sont distinctes des Églises blanches baptistes. Et le jour, peut-être, où il y a le plus de ségrégation encore aujourd'hui aux États-Unis, c'est dans les Églises. Vous avez des Églises où il n'y a que des noirs baptistes, et puis à côté des Églises où il n'y a que des blancs baptistes. C'est vrai dans le Sud, c'est vrai à Harlem, c'est vrai à Chicago. C'est un peu le paradoxe de ces religions divisées en deux. On oublie aussi que chez les baptistes blancs conservateurs proches du fondamentalisme, d'un Jerry Falwell par exemple, ou d'un Pat Robertson, il y a cette croyance en l'inhérence de la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Seul compte l'écrit, et c'est apprendre la Bible, est apprendre littéralement, à tel point que on va aboutir aux thèses créationnistes, par exemple, l'idée que la création du monde, elle a lieu il y a 6000 ans et non pas plusieurs millions d'années. On va même avoir en Floride un parc qui a été créé, qui est un musée créationniste, où vous avez des représentations d'Adam et Ève et des diplodocus côte à côte. Enfin, il y a des choses un peu bizarres qui sont liées à cette lecture littérale de la Bible. Il faut réaliser que 30% des Américains pensent encore aujourd'hui que la seule lecture possible de la Bible que l'on doit faire aux États-Unis, c'est une lecture littérale. Et vous avez à peu près 37% des Américains qui pensent que la Bible, oui, c'est la parole de Dieu, mais on peut l'interpréter, c'est pas à prendre littéralement. Et puis d'autres qui pensent que ça n'est pas vraiment la parole de Dieu. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces conflits d'interprétation, c'est que les pères fondateurs, eux qui sont déistes ou agnostiques, presque tous, ont une vision, disons, très très voltairienne de la Bible, et on a trop souvent oublié que Jefferson, élu président en 1800, qu'est-ce qu'il fait quand il a un peu de temps libre? Eh bien, il fait un copier-coller, il prend les évangiles, les quatre versions d'ailleurs, grecque, latine, française c'est la Bible de Calvin, et anglaise, il les colle côte à côte, mais il enlève tout ce qui est miracle et tout ce qui est résurrection, et la Bible de Jefferson qui vient d'être restaurée par le Smithsonian, le musée Smithsonian à Washington DC, on peut la voir, on peut même, il y a une très belle restauration de cette Bible, on peut même commander une copie, acheter dans le commerce une copie de cette Bible. Elle se termine par la phrase suivante, et Joseph d'Arimathie roule la pierre devant la tombe de Jésus, point final de la Bible de Jefferson. Jésus est un philosophe, il est comme Socrate, mais il n'est pas le fils de Dieu. Et aujourd'hui, Jefferson ne serait pas élu aux États-Unis parce qu'il serait considéré comme dangereusement athée.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, nous recevons Denis Lacorne pour De la religion en Amérique. Alors, il y a une chose qui est assez peu connue, en tout cas en France, c'est que à partir d'un certain moment, les catholiques vont devenir aussi très très nombreux, et qui va avoir quasiment une guerre de religion, avec des journées d'émeutes, une guerre des Bibles. Vous parlez même, il y a une sorte de protocole des sages de Sion qui va être créé par les catholiques, qui est le récit de Maria Monk. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez mal en France, entre les catholiques et les...
Oui, alors c'est vrai que le catholicisme américain est important. Aujourd'hui, 25% des électeurs sont catholiques, c'est à peu près 25% de la population, et paradoxalement aujourd'hui, la plus grande église par la taille aux États-Unis, c'est l'église catholique. Et la deuxième église par la taille, c'est the Southern Baptist Convention, c'est la fédération des baptistes du Sud. Bon, il y a plus d'églises protestantes que d'églises catholiques. Si on les additionne, il y a plus de protestants que de catholiques. À peu près 50-51% des Américains sont protestants aujourd'hui. On est à peine légèrement plus que la moitié. Les catholiques, c'est à peu près 25%. Puis il y a d'autres religions, les 100 religions qui sont de environ 16% aujourd'hui. Mais c'est au XIXe siècle qu'on a oublié la dureté de c'est pas une guerre civile, le mot serait trop fort, mais de cette guerre de religion qu'on appelle la guerre des Bibles et qui se passe dans les écoles. C'est-à-dire que vous avez ces millions de nouveaux immigrés irlandais qui débarquent aux États-Unis et qui sont très attachés à une éducation religieuse, à leur version essentiellement de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui n'est pas la même que la version, la Bible de King James Version, c'est-à-dire la version du roi Jacques, qui est la Bible anglicane dominante, et qui n'accepte pas cette Bible anglicane, où les lectures qu'on peut en faire, qui sont à l'époque obligatoires dans les écoles, primaires et secondaires. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que cette Bible anglicane, si vous lisez sa préface, elle est tout à fait antipapiste. C'est encore aujourd'hui, c'est la même préface, c'est cette fameuse Bible dont on vient de fêter, d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, le 400e anniversaire, et qui est quelque chose de très important dans la construction de la langue anglaise. Donc, il n'accepte pas cette Bible anglicane, et le vrai débat se situe autour, dans le fond, de la récitation, qui est classique dans les écoles au XIXe siècle, des 10 commandements. Il se trouve que les 10 commandements pour les protestants, et pour les juifs d'ailleurs, ne sont pas les mêmes que les 10 commandements pour les catholiques ou les luthériens, d'ailleurs. Le vrai problème concerne le deuxième commandement qui est passé à la trappe dans la tradition catholique. Le deuxième commandement qui interdit les images gravées, qui interdit les icônes, si vous voulez. Dans la tradition catholique, pour avoir toujours 10 commandements, on dédouble le dixième en 2 commandements. Donc on en a 10 quand même, mais le deuxième n'est pas listé. Et donc c'est une des raisons du conflit. Et très souvent, les jeunes enfants irlandais, alors, au moment où on fait la récitation des 10 commandements, dans les leçons, disons, de devoir civique, eh bien, vont refuser, vont dire non. Et à ce moment-là, ils seront sanctionnés par les profs, on leur tapera sur les doigts. Il y a même un petit enfant qui se prétendra martyr, qui a les doigts ensanglantés, que les catholiques vont faire circuler à travers les États-Unis pour montrer voilà ce qui se passe lorsqu'on a des enseignants intolérants. Et puis, c'est aussi plus que ça, c'est-à-dire que c'est aussi, vous avez des gangs de protestants qui vont aller tabasser des prêtres catholiques, qui vont prendre d'assaut des couvents, qui vont brûler des couvents. Du coup, les catholiques vont créer des milices pour défendre leurs églises et menacer de rétorsion. Donc, il y a vraiment un conflit qui est très dur. Et aussi, toute une littérature de propagande que vous évoquiez, Maria Monk, c'est cette nonne imaginaire, là, jamais, c'est un personnage de fiction. Enfin, elle a existé, mais a-t-elle été nonne à Montréal, il y a un peu une incertitude, mais elle a été utilisée par l'appareil de propagande des leaders anglicans et elle écrit un livre qui dénonce les horreurs, les orgies qui auraient lieu dans les couvents catholiques, les souterrains où on transporte des nonnes qui seront violées par des prêtres du couvent d'à côté, etc. Et c'est une littérature, ce sont les grands best-sellers de l'époque. Les terrifiantes révélations de Maria Monk est un livre qui se vendra aussi bien que la case de l'oncle Tom au milieu du XIXe siècle aux États-Unis. Et alors, vous évoquiez avant la Tocqueville, le catholicisme, dans le fond. Ce qu'il y a de curieux chez Tocqueville, c'est que point de départ de la démocratie américaine, c'est le protestantisme. Mais le point d'arrivée, c'est quoi? Il est aux États-Unis en 1830. Et qu'est-ce qu'il voit? Il observe des grands réveils évangéliques. Il va dans des camp meetings. Et ce qu'il voit l'horrifie. Il voit des gens qui se roulent par terre, qui entrent en transe, qui se convertissent. Et c'est pas sa conception de la religion. Et du coup, il est partagé. Il dit, dans le fond, il y a deux dangers pour une démocratie moderne. Le premier danger, c'est une religion qui serait trop... le premier danger, c'est le scepticisme ou l'athéisme, parce que ça peut conduire au socialisme, ou ça peut conduire dans quelque chose qui déplaît à Tocqueville, la division de la remise en cause de la propriété. Donc ça, c'est dangereux. Alors que lui-même est probablement un athée, c'est-à-dire Tocqueville perd la foi à l'âge de 17 ans. Et puis d'autre part, il y a une autre religion qui affole Tocqueville, qui est l'évangélisme indiscipliné, qui risque de conduire à l'anarchie, pense-t-il. Et donc, il imagine une religion qui serait un espèce de juste milieu, qui serait suffisamment, qui garderait suffisamment d'autorité pour qu'il y ait une certaine discipline, mais qui serait aussi modérée, et il imagine un catholicisme libéral. Ce serait la religion idéale pour une démocratie. Alors, en même temps, il rêve, c'est une construction qu'il imagine pour les États-Unis, juste avant la guerre des Bibles, qu'il n'a pas vraiment observé, il anticipe mal à court terme, en tout cas, à long terme, il a peut-être raison, mais il pense aussi à qu'est-ce qui va se passer en France, c'est-à-dire il espère réconcilier le catholicisme avec la Révolution, et donc c'est un peu le projet tocquevillien. Mais paradoxalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'une certaine façon, il n'a pas complètement raison, mais si on voit le poids des catholiques dans le système politique américain, leur importance même dans les primaires, puisque deux des finalistes, enfin ça sera sans doute Romney qui l'emportera et les Mormons, mais Gingrich et Santorum sont des catholiques très très fervents et très conservateurs. La Cour suprême aujourd'hui, sur les 9 juges, il y a 9 justices de la Cour suprême, il n'y a plus un seul protestant, il y a 3 juifs et des catholiques. Une majorité de catholiques. Donc les catholiques sont, on ne peut pas dire qu'ils dirigent l'Amérique, mais ils ont un rôle tout à fait important qui a été insoupçonné, disons, à l'époque de la guerre des Bibles, et qui était aussi difficilement imaginable jusqu'à ce que Kennedy soit élu en 1960. C'est lui le premier.
À l'époque, il y a déjà derrière cette peur des catholiques, on considère que c'est un déclin des anglo-saxons, et on a une peur, ça paraît quand même incroyable, des hordes celtiques et germaniques germaniques qui arriveraient aux États-Unis. C'est-à-dire, là c'est le wasp qui risque de disparaître.
Voilà, ça c'est, alors il y a toute une littérature ethno-raciale qui prolifère à la fin du 19e, toute une série aussi de sociétés secrètes qui sont à la fois certaines loges maçonniques qui sont anti-catholiques, qui interdisent, un catholique ne peut pas entrer dans une loge maçonnique aux États-Unis, alors que ce sont des loges qui utilisent la Bible, qui sont attachées aux
francs-maçons français
religieuses, donc c'est pas exactement que... Enfin, il y a des traditions écossaises, y compris en France, mais elles sont très fortes en Angleterre, donc il y a ça. Il y a aussi, donc, et les catholiques, d'ailleurs, vont eux-mêmes créer l'équivalent de loge maçonnique, The Knights of Columbus. Ça sera la version catholique de Knights of Columbus. Et se crée aussi un parti qui s'appelle The Know Nothing. C'est un parti qui veut rester secret, donc qui s'appelle Ceux qui ne savent rien, qui ne veut pas révéler qui est membre de ce parti. Mais c'est un parti qui est nativiste. Nativiste, ça veut dire qui est opposé à la nouvelle immigration qui vient d'Europe du Sud et qui, disons, lorsqu'on entre dans ces partis dits know nothing, on doit promettre de ne jamais faire de business avec un catholique, de ne pas épouser un catholique ou une catholique. Il y a une espèce, ça crée un cloisonnement entre les protestants et les non-protestants. Et derrière ça, il y a effectivement une espèce de hiérarchie de races qui se constitue. Et l'idée implicite, c'est que les races nordiques, c'est les thèses par exemple de Madison Grant, les nordiques, les scandinaves, les saxons, c'est les races supérieures. Alors que les Italiens, les Français, les Celtes, etc., les Espagnols, ce sont des races, et les Juifs, ce sont des races inférieures, dont il faut, non pas éliminer, mais dont il faut limiter l'impact, d'où d'ailleurs ces lois restrictives, qu'on appelle les lois des quotas, qui seront votées en 1924 aux États-Unis et qui vont pratiquement mettre fin à l'immigration qui venait d'Europe centrale, de polonais, italien, ça
même les germaniques à un moment vont être
oui, mais non, pas vraiment, parce que les germaniques, ça fait partie des teutons, donc ça fait partie des races supérieures dans ce
concept. Donc j'avais cru lire qu'à partir de 70, il commençait à... Je crois que oui, c'est 70.
Non, il y a une inquiétude, mais très tôt d'ailleurs, c'est-à-dire que même au XVIIIe siècle, il y a une inquiétude. Est-ce que les Allemands sont vraiment assimilables? Benjamin Franklin a des doutes. Il pense qu'ils ont une complexion foncée qui fait que c'est pas vraiment des Blancs. Mais très souvent, les Italiens, il y a tout un débat aux États-Unis sur qu'est-ce que c'est qu'être blanc, que la blanchitude. Et lorsqu'on vous aime pas, on vous traite de non-blanc. C'est-à-dire que très souvent, les Italiens, parce qu'ils sont souvent bruns avec des cheveux noirs, sont traités d'Africains. Les Juifs polonais sont traités d'orientaux, etc. Et dans les caricatures d'Irlandais, ils sont souvent représentés comme des monkeys, comme des singes, comme des sous-humains. Donc ça fait partie de la cruauté du jeu des races et des ethnies aux États-Unis.
Alors, au XXe siècle, vous parlez de deux périodes, parce qu'il va y avoir une période où la religion va quasiment disparaître, hein, dans les années 30.
Ça, c'est l'interprétation française, oui.
Oui, c'est l'interprétation c'est ça, française.
Absolument,
oui. Et on s'aperçoit que le religieux, il revient à une période bien précise qui est au moment de l'affaire du Watergate. C'est-à-dire, vous expliquez que il y a un retour dans l'état d'esprit des Américains du religieux à ce moment-là. Est-ce que c'est dû simplement à l'affaire du Watergate et à Nixon et au scandale que ça a fait, ou est-ce
un peu avant, c'est-à-dire que vous évoquiez, c'est vrai qu'il y a une période qui m'intéresse, j'ai un chapitre là-dessus sur ce qui s'appelle Dieu est mort aux États-Unis, et là c'est un autre récit qui lui se construit en France dans les années 1920-1930, disons. Un moment très court, où là, il y a une espèce d'unanimité entre une série d'écrivains, de philosophes, d'essayistes qui vont prétendre que, pensez à Céline, pensez à Georges Duhamel, pensez à Bernanos, on va prétendre que l'Amérique est sans Dieu parce qu'elle est dominée par la machine, le productivisme, l'ouvrier est une fourmi. Et donc, il est temps de restaurer les grandes valeurs spirituelles et seuls les Européens sont capables de faire ça. Ça, c'est un peu le débat. Mais la religion en politique redevient centrale aux États-Unis. Alors, elle est toujours importante au point de vue rhétorique, c'est-à-dire qu'il est bien vu, lorsqu'on est président, de citer la Bible.
Et, je crois que Nixon était Quaker.
Mais enfin, il n'a pas été le pacifiste qu'on pouvait attendre d'un Quaker. Donc, c'est vrai que il venait d'une famille de Quaker. Mais la religion devient centrale. C'est la guerre froide, en fait, qui change les choses. C'est surtout sous Eisenhower, Truman et Eisenhower. C'est-à-dire, sous Eisenhower, pour signifier que, en politique étrangère, l'Amérique, c'est vraiment l'opposé de la Russie, on va créer ce couple antagoniste de la Russie athée et donc l'Amérique chrétienne. Et Eisenhower, qui lui-même n'a pas de religion, il est élu président, il ne pratique pas, il n'a pas d'église, il va se convertir après être élu président. Et on va lui coller aux fesses des prédicateurs, dont Billy Graham, qui aura ses entrées à la Maison-Blanche. Ça, c'est le choix des élites républicaines. Pour. Mais sous Eisenhower, qu'est-ce qui se passe? La devise « In God we trust » n'est pas une devise, c'est sur la monnaie, mais c'est pas une devise nationale. Ça va, par un acte du Congrès, devenir devise nationale sous Eisenhower. On va ajouter au serment au drapeau « One Nation Under God » qui ne faisait pas partie du serment original. Tout ça, ça se passe dans des décisions du Congrès au moment de la guerre froide pour bien signaler le fait qu'il y a un pays chrétien qui s'opposerait à un pays athée. Donc la guerre froide a un rôle clé. Mais même avant, il y a un livre qui vient de sortir qui est très intéressant de William N. Bodden, qui est un historien américain des relations internationales, qui vient de trouver dans les archives Truman, par exemple. Truman, qui lui est baptiste, qui vient du Midwest. Eh bien, il y a une correspondance secrète entre Truman et P12 pour comment mieux lutter contre le danger bolcheviste après la guerre. Et Truman aurait souhaité qu'il y ait un ambassadeur américain au Vatican. Il n'a pas pu le faire, ça sera plus tard. Donc il y a la guerre froide a un rôle important dans cette mobilisation du religieux par le politique.
Alors, il y a aussi... il y a Pascal qui me dit, vous êtes bien sûr Radio Courtoisie, et nous recevons Denis Lacorne pour De la religion en Amérique. Il y a aussi une grande erreur que font les Français, et on l'a bien vu sur l'affaire Clinton, c'est que on a l'impression qu'il y a deux Amériques, c'est-à-dire que vous expliquez bien que les journaux français, à ce moment-là, prennent fait et cause pour Clinton, cette Amérique puritaine, comme ils disent à chaque fois, et en fin de compte, ils sont assez étonnés de voir que après cette affaire, Clinton va religieusement se confesser et dire qu'il a eu tort. Et on retrouve exactement la même chose chez quelqu'un comme George Bush qui explique qu'avec l'alcool, il a eu un problème. Là, on est exactement dans l'Amérique, qu'il soit démocrate ou républicain.
Oui, alors Clinton, c'est le repentir, la confession publique. Clinton, c'est un évangélique, c'est un born again Christian, ça, il faut jamais l'oublier. George Bush, lui, parle de sa première conversion. George Bush, on ne sait pas trop ce qu'il est. Son père est épiscopalien. Alors, il y a ce qui est évidemment un peu inquiétant, c'est si on regarde, prenez la famille Bush. La religion, le choix de la religion n'est jamais complètement désintéressé. C'est-à-dire, c'est pas par hasard que le père est épiscopalien au Connecticut, qui est la religion. Bon, il n'est pas puritain, mais c'est une religion, disons, des élites du Connecticut. Le fils qui est en Floride, Jeb Bush, lui, est converti au catholicisme et il épouse une femme d'origine mexicaine. Il parle espagnol par ailleurs. Et l'autre fils qui va au Texas, lui, est devenu born again Christian. Et il est converti, effectivement. Alors, il y a plusieurs récits de sa conversion, un officieux, un officiel. La version officielle, c'est qu'il a été converti par Billy Graham dans la maison de campagne de ses parents à Kennebunkport, dans le Maine. Et puis, il y a une autre version souterraine, défendue par un auteur, Eichmann, sur la religion de Bush, qui prétend que ça s'est passé, en fait, au milieu du Texas, avec un prédicateur qui s'appelait Blessit, qui est un évangélique très dynamique, mais un peu cinglé, qui a fait 50 000 kilomètres avec une croix à roulettes qui portait sur son épaule, et qui ont été celui qui aurait vraiment révélé la religion à George Bush.
Vous êtes en train de nous expliquer que chaque Bush a choisi sa religion selon les élections.
C'est une question qu'il faut se poser. Le catholique n'est pas allé au Texas et l'épiscopalien n'est pas allé en Floride. Donc il faut bien voir que c'est aussi un phénomène plus général. libérale, c'est-à-dire c'est vrai que de par les mariages mixtes entre, disons, à l'intérieur du même groupe ethnique ou en dehors du groupe ethnique, là n'est pas la question, on change très fréquemment de religion par le mariage et à cause du mariage. À peu près 40% des Américains aujourd'hui pratiquent une religion qui n'est pas la religion de leurs parents ou de leur enfance, à cause de changements dans la vie, de divorce ou de mariage. Et ça, ce changement constant d'une religion à l'autre, c'est quelque chose qui est moins fréquent, bien sûr, chez nous, et qui explique pourquoi les points de doctrine, les points de théologie sont peut-être moins vigoureux dans ce pays, puisqu'à force de changer de religion, on est moins attaché à l'aspect doctrinal.
Alors, au départ, le religieux est principalement les évangélistes ou évangéliques.
Évangéliques
ne s'occupent pas de politique. Comment ils vont se retrouver au cœur de la politique des élections américaines?
C'est-à-dire, là on parle de ce qu'on appelle les évangéliques les plus conservateurs du Sud, qui sont des fondamentalistes, qui croient vraiment à l'inhérence biblique et qui sont... qui ne croient pas à Darwin, et qui sont un peu retirés du politique parce qu'ils en ont trop fait, et ça s'est mal passé, le fameux procès du singe dans les années 30 qui a ridiculisé un certain nombre de fondamentalistes. Donc ils ont préféré s'abstenir du politique, et la priorité, lisez les vieux textes de Jerry Falwell ou de Pat Robertson, pour eux la priorité des priorités, c'est convertir les âmes, c'est ça leur passion, c'est pas le reste. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où Johnson vote la loi des droits civiques, qui est une loi qui va généraliser, qui va mettre fin à la ségrégation, et à la ségrégation scolaire notamment, il y a un moment de panique dans les élites blanches conservatrices du sud des États-Unis, qui vont tout faire pour éviter que, par racisme, mais racisme un peu caché, pour éviter que leurs enfants aillent dans des écoles mixtes où il y a des blancs et des noirs, des écoles publiques. Ils vont créer, multiplier par milliers, ce qu'on appelle les Christian Academies, qui sont des écoles chrétiennes, protestantes, souvent proches d'églises évangéliques très conservatrices, et qui vont bénéficier d'exemptions fiscales du gouvernement fédéral, jusqu'au jour où en 1976, c'est Carter, mais juste avant Carter, et Carter va maintenir cette décision, il y a une décision du fisc américain, enfin du service des impôts, qui décide que, voilà des écoles qui violent la loi qui pour mettre fin à la ségrégation, et donc elles ne vont plus disposer de ces exemptions fiscales, d'où la colère des parents qui ont mis leurs enfants dans ces Christian Academies, qui beaucoup de Christian Academies risquent de perdre n'ayant pas leur financement, risquent de faire faillite. Et c'est à ce moment-là que va se mobiliser toute une série de cadres évangéliques pour défendre des écoles libres, mais des écoles libres ségrégées, et vont acquérir le goût du politique. Et vont constituer seront d'ailleurs les premiers organisateurs de ce qu'on appellera la majorité morale de Jerry Falwell, qui soutiendra Reagan et facilitera l'élection de Reagan, alors que on aurait pu penser qu'avec Jimmy Carter, lui-même un évangélique, l'évangélisme resterait prédominant du côté démocrate, mais pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est le début, dans le fond, de ce que j'appelle la droitisation du Parti républicain, la sudisation du Parti républicain, un parti qui devient plus conservateur, beaucoup plus proche des évangéliques conservateurs, et qui va, du coup, gagner le Sud. Le Sud était, de façon uniforme, homogène, démocrate, et puis le jour où passe la fameuse loi des droits civiques, et bien le Sud va lentement basculer vers le parti républicain, et aujourd'hui la plupart des États du Sud profond sont des États républicains.
Alors ce qui aura pour vous expliquer, pour conséquence que pour le parti républicain de recruter en grand nombre ces futures élites vont venir de ce Sud.
Absolument.
Est-ce qu'on peut-on expliquer aujourd'hui la multiplication des discours théocratiques chez les candidats républicains par justement ce changement qui s'est formé?
Oui, par cette sudisation, ça a été le cas en 2008. Huckabee, l'ancien gouverneur de l'Arkansas, a été candidat républicain, candidat malheureux, puisque c'est McCain qui l'a emporté. Mais Huckabee avait très très bien réussi dans l'Iowa. McCain avait quand même gagné, je crois, dans Caroline du Sud, parce que le vote évangélique était divisé à l'époque. Et c'est vrai que vous avez Gingrich, c'est quelqu'un qui vient de... un politicien de la Géorgie, c'est le Sud. Herman Cain venait aussi du Sud, un candidat malheureux pour des affaires sexuelles. Et puis la seule exception, c'est Santorum, qui vient de Pennsylvanie, et Romney, qui lui est un mormon, qui était jadis le gouverneur du Massachusetts. Mais tous ces candidats-là parlent volontiers de leur religion, de leur conversion, sauf Romney. Romney a une difficulté qui est liée au mormonisme, donc il est très discret sur sa religion à lui. Mais les autres sont...
Est-ce que ça les considère presque comme une secte par une partie
pour les évangéliques.
Pour les évangélistes.
Pour ceux qui croient à l'inhérence biblique, on ne peut pas accepter de Book of Mormons, le livre des Mormons qui corrige la Bible, est une annexe. Pour eux, c'est inacceptable. La Bible se suffit à elle-même. Et donc c'est une apostasie inacceptable. Et c'est une secte, ont-ils dit. Et récemment, un prédicateur baptiste du Sud disait « Oui, voter pour Romney, c'est voter pour Satan ». Huckabee, en 2008, qui était candidat, avait laissé entendre lors des primaires du Michigan que le mormonisme, n'est-ce pas cette religion où Satan est le frère de Jésus. Donc il y a une guerre religieuse souterraine aux États-Unis, et du coup Romney est très embarrassé, il préfère ne pas trop dire qu'il est mormon, parce qu'il y a cette crainte que les évangéliques vont jamais voter pour un mormon, et c'est vrai d'ailleurs. Dans l'Iowa, la majorité des évangéliques se sont reportés sur Gingrich. Romney n'a eu que... Il a gagné l'Iowa. Enfin, il l'a gagné, il l'a perdu, il l'a gagné, puis il l'a perdu. Il y a eu un recomptage qui lui a pas donné l'Iowa, mais fondamentalement, il a 10% du vote ou 14% du vote des évangéliques. En Caroline du Sud, là, Gingrich l'a emporté avec une majorité du vote des évangéliques conservateurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est une chose nouvelle auquel on assiste aujourd'hui aux États-Unis, c'est une espèce d'alliance, de rapprochement entre des catholiques conservateurs et des évangéliques. C'est une chose nouvelle, c'est inconcevable à l'époque de Kennedy. Et aujourd'hui, il y a une réunion, par exemple, des plus grands leaders évangéliques en Caroline du Sud pour choisir le meilleur candidat. Et leurs votes se sont divisés entre Gingrich et Santorum, deux catholiques. Ils ont préféré Santorum. Mais donc c'est intéressant de voir que les catholiques conservateurs aujourd'hui aux États-Unis, très attachés aux valeurs familiales traditionnelles, très opposés à l'avortement et opposés aussi à la contraception, ça fait partie d'un des débats récents aux États-Unis aujourd'hui, sont des catholiques, et donc il y a cette convergence nouvelle, inattendue, entre évangéliques blancs conservateurs et catholiques conservateurs.
Et pourquoi ce rapprochement? C'est dû à quoi?
Parce qu'ils partagent les mêmes valeurs traditionnelles, parce que à la Cour suprême, ils votent bien, c'est-à-dire que les catholiques conservateurs Scalia, Liotto, sont en des positions qui plaisent aux évangéliques. Je crois que ce sont ces raisons-là. Et ils sont attachés à la famille, et sont prêts à parler aussi très volontiers de leur religion, de leur foi, ce qui est quelque chose qui a toujours été valorisé par les évangéliques. Alors en même temps, c'est compliqué, parce que c'est aussi, les États-Unis, c'est un pays un grand pluralisme religieux, et où on... pluraliste qui est très bien exprimé par Obama. Lorsqu'Obama fait son premier discours lorsqu'il vient d'être élu en 2008, il dit, dans le fond, nous sommes le pays de toutes les religions. Il précise le pays des chrétiens, des juifs, des musulmans, des hindous et de ceux qui n'ont pas de religion. Et à ma connaissance, c'est le premier président américain qui, dans le panthéon des religions américaines, ajoute la non-religion, l'athéisme. En cela, d'ailleurs, c'est un bon constitutionnel, et ça reste la position encore dominante aujourd'hui de la Cour suprême. Il y a des arrêts tout à fait intéressants de la Cour suprême. En 2005, par exemple, l'arrêt McCreary, où le juge qui rédige l'opinion de la Cour dit très précisément, il s'agit de, est-ce qu'on a le droit d'afficher les 10 commandements sur les murs des tribunaux de Kentucky? Et quelle est la réponse du juge Souter, en l'occurrence? Non. Ça viole le principe de non-establishment, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'église officielle aux États-Unis. Ça privilégie une religion parmi d'autres, ou en tout cas les religions abrahamiques. Et donc, on ne peut pas l'accepter parce que, je cite pratiquement littéralement, ça rendrait inconfortable quelqu'un qui n'est pas un chrétien et que ça lui donnerait le sentiment de ne pas appartenir à la communauté de la nation. C'est-à-dire que le raisonnement, c'est que la nation, la communauté des citoyens est inclusive et elle doit inclure toutes les religions, y compris la non-religion, et y compris des religions païennes ou des religions qui ne sont pas monothéistes. Donc ça, c'est la position qui reste dominante de la Cour suprême et qui pose aussi le principe de l'égalité entre toutes les religions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion qui est supérieure à une autre. Alors que pour les candidats républicains aujourd'hui, manifestement, oui, il y a des religions supérieures à d'autres. Le christianisme, dans ses variantes protestantes ou catholiques, est manifestement supérieur à d'autres religions. C'est dit explicitement ou implicitement dans cette campagne.
Enfin, supérieur, et en même temps, il y a un soutien. Alors, est-ce que c'est une loupe que les télévisions françaises ont montré souvent, mais il y a un soutien conditionnel pour l'État d'Israël, et souvent oui. Les évangéliques se sentent très proches du judaïsme et de l'État d'Israël.
Oui, alors pour, à la fois, disons, l'intérêt est ancien, puisque il y a une connaissance, ça c'est propre au protestantisme tout court, pas nécessairement au puritanisme, c'est-à-dire les protestants lisent la Bible, lisent l'Ancien Testament de façon beaucoup plus suivi qu'un catholique en France, par exemple. Et il y a aussi dans cette lecture un thème qui traverse toute l'histoire du protestantisme, qu'il soit d'ailleurs anglican ou puritain, c'est l'idée de nous protestants, nous créons la nouvelle Jérusalem. Lorsque la reine d'Angleterre est couronnée, la reine Élisabeth, dans les années 50, elle évoque la nouvelle Jérusalem. On va chanter à Westminster Abbey. On va évoquer en tout cas la Nouvelle Jérusalem. Il y aura d'ailleurs, il y a des oratorios de Handel qui sont consacrés à la chose. C'est un peu un lieu commun du protestantisme. La plupart des candidats aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rattacher à ce récit puritain des fondations et vont parler, je l'ai noté plusieurs fois, Romney, Gingrich, Herman Cain vont parler à de nombreuses reprises sur le fait que leur objectif à eux, c'est de recréer la nouvelle Jérusalem. L'Amérique est un pays exceptionnel parce que c'est un shiny city on the hill. C'est une citation du journal de Winthrop, le grand gouverneur puritain du Massachusetts, qui est recyclé encore aujourd'hui par des candidats qui sont catholiques ou d'ailleurs mormons. C'est dire le poids de cette relecture néo-puritaine du passé américain. Donc, on est attaché à ça, et pour les plus fondamentalistes, pour ceux, alors ça n'est pas les candidats actuels, aucun d'entre eux n'a ces positions, même s'ils sont très favorables à Israël, mais pour les vrais fondamentalistes, je pense à Jerry Falwell ou à Pat Robertson, leur lecture ou leur sionisme, leur pro-sionisme, leur philo-sémitisme, si vous voulez, est fondée sur la lecture de l'Apocalypse de Jean, c'est-à-dire l'attente de la seconde venue sur terre du Christ, la certitude que ça va se passer, ça, en Israël, qu'il y aura à un certain moment peut-être la reconstruction du temple, et donc c'est cette préoccupation eschatologique qui les passionne pour ce qui se passe en Israël, et ils ont l'impression que on se rapproche beaucoup du moment de la seconde venue du Christ sur terre. Alors ils ont été très excités au moment de la création de l'État d'Israël. L'idée du grand Israël, ça c'est ce que prévoit la Bible, prétend-il, et d'où cet intérêt, très bien décrit d'ailleurs par une anthropologue qui s'appelle Susan Harding, qui a écrit un livre tout à fait étonnant, qui s'appelle The Book of Jerry Falwell. Elle a fait 5 ans de terrain d'analyse ethnographique des mentalités de l'évangélisme pur et dur en Virginie, donc à Liberty Baptist College, qui est devenu Liberty University aujourd'hui à Lynchburg en Virginie, et que dit Susan Harding? Elle a constaté que il y a constamment des voyages, des pèlerinages dans les lieux saints en Israël, et que périodiquement on va enfoncer dans le sable du désert des petites bouteilles dans lesquelles il y a des textes de la Bible pour accélérer le jour venu la conversion des Juifs, puisque dans oui. cette construction la plupart des Juifs iront en enfer, mais le tiers des Juifs, eux, seront convertis et connaîtront le rapture, pourront monter au ciel avec les bons évangéliques.
On va parler deux minutes d'Obama. On a l'impression qu'il a été beaucoup plus discret. Pourtant, il a été quand même un membre très actif dans ce qu'ils appellent les méga church à Chicago.
Oui.
Et donc, même pendant sa réélection, il va avoir besoin de...
Oui, alors, tout à fait. Obama, le problème d'Obama, il est... D'abord, il se rattache beaucoup plus au récit des pères fondateurs qu'au récit des puritains. Jamais Obama ne fait référence à la Nouvelle Jérusalem. Jamais. Reagan, oui. La droite conservatrice, oui. Pas Obama. Il ne s'imagine pas, il ne peut pas se représenter, disons, descendant des puritains. Il a sans doute raison. Et Obama est quelqu'un qui se convertit tard. C'est-à-dire, sa mère n'est pas... Il vient d'une famille d'athées. Son père, d'origine musulmane, a perdu la foi, est un athée. Sa mère... n'a jamais pratiqué de religion. Donc, il est élevé, ce qui est rare aux États-Unis, dans une famille d'athées, dans le fond. Et lui, c'est seulement lorsqu'il devient travailleur social à Chicago, donc sur le tard, avant qu'il aille à Harvard Law School, qu'il va se convertir. C'est une conversion, dit-il, d'ailleurs, qui n'est pas, il n'est pas un born-again Christian. C'est une conversion qui n'est pas une épiphanie pour lui. C'est pratiquement un acte raisonné, et sa conception de la religion est très proche de celle qu'on appelle le social gospel, c'est-à-dire c'est une... Là, on a beaucoup parlé d'évangélisme, mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi des variantes très progressives de l'évangélisme. D'abord, ceux qui étaient les abolitionnistes, qui étaient pour l'abolition de l'esclavage, sont des mouvements religieux aussi. Donc la religion, ça compte aux États-Unis parce que ça a des effets politiques importants. Abolition de l'esclavage. Mais il y a la tradition du social gospel qui met l'accent sur la justice, sur la nécessité de défendre les pauvres, une version protestante, disons, de l'abbé Pierre, pour faire très court. Et c'est le type de tradition qui a marqué Obama, et il va joindre une église qui est l'église de United Church of Christ à Chicago, qui est une église d'ailleurs qui descend, qui a des liens avec le congrégationalisme, mais un congrégationalisme complètement modernisé, puisque c'est une église où le principal prédicateur, Jeremiah Wright, prêche une théologie de la libération afro-américaine. C'est ça qui se passe. Et c'est une église très progressiste, où dans d'autres États, moi j'en ai vu en Californie, c'est le même type d'église, où vous avez des pasteurs qui sont des femmes, ouvertement lesbiennes, etc. Donc c'est, tout est permis dans cette église. Pour Obama, ça créera un problème, parce que Jeremiah Wright, on va retrouver sur YouTube certains sermons où il dénonce le gouvernement américain, il apparaît comme anti-patriotique, il dit « Damn America », etc., qui est le discours typique, d'ailleurs, de la théologie de la libération protestante des années 60. Et donc, ça lui sera reproché. Et le malheureux Obama, qu'on soupçonne d'être peut-être toujours un musulman alors qu'il ne l'a jamais été... Ensuite, qu'on dit, attention, il est lié dans une église qui n'est pas patriotique, a pris ses distances avec ce prédicateur, avec cette église. Il n'appartient à aucune église aujourd'hui, même s'il va régulièrement, pas toutes les semaines, mais régulièrement, au culte baptiste à Washington, ou pas seulement, ou évangélique, mais il n'appartient plus vraiment à une église. Et il a dû faire ce discours difficile, le discours de Philadelphie de 2008, où il a pris ses distances avec ce prédicateur pour expliquer que, oui, la religion c'est important, mais on ne doit pas non plus insulter le gouvernement en place en fonction d'une... Donc il est très prudent, et c'est un homme de compromis en matière de religion. Que fait Obama? Il dit la chose suivante, dans le fond, moi je crois qu'on doit... intégrer, accepter tous les groupes, toutes les religions, quelles qu'elles soient, y compris l'islam, et l'islam, il a fait ce fameux discours du Caire qui montre son respect pour le monde islamique. Mais il dit aussi, dans le fond, on aime opposer les croyants et les laïcs. Et moi, Obama, je dis que non, il ne faut pas les opposer. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse rapprocher les uns des autres. Et je ne crois pas que ce soit une bonne idée en politique de laisser la religion complètement en dehors du politique, de l'espace public. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il y a place aussi pour la religion. Et il va mettre en place, qui fait aussi partie de la tactique politique, c'est ce qu'a fait Bush fils, c'est ce que font tous les candidats présidentiels, un programme de reach out, un programme de qui est destiné à séduire le vote religieux. Il a mis ça en place au moment des élections de 2008. Il a constitué une équipe, d'ailleurs très habilement constituée, dirigée par un certain Joshua Du Bois, qui est un pentecôtiste afro-américain, entouré d'un un professeur qui vient d'une université catholique et d'un latino catholique et d'un latino pentecôtiste, dont le rôle était de bien indiquer aux électeurs potentiels latinos essentiellement, catholiques et pentecôtistes, puisque presque un tiers maintenant des latinos sont pentecôtistes aux États-Unis, de dire, voyez, le président s'intéresse à vous. Et d'ailleurs, Obama s'était engagé à faire ce qu'avait fait Bush fils, à créer un office, disons une branche du gouvernement qui s'appelait the Office of Faith-Based Organization, des organisations caritatives religieuses. Donc il a fait pratiquement la même chose que Bush, et en promettant de donner des fonds très très importants aux associations caritatives religieuses, des fonds du gouvernement fédéral. Donc, mais il a fait ça au moment des élections, puis on en a beaucoup moins parlé après. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans un cycle électoral, et à nouveau, Obama semble très intéressé par la religion, plus qu'il l'a été l'année dernière ou l'année d'avant. Et il y a eu le fameux breakfast meeting, le petit déjeuner annuel qui a lieu à Washington, où on invite des milliers de prédicateurs, de pasteurs, de rabbins, et où le président discute de sujets de la religion. Et là, Obama, à nouveau, a montré combien la religion était importante pour lui, combien il priait, combien de fois il se mettait à genoux, etc. Enfin, il est entré dans des détails qu'on soupçonne mal, mais qui sont classiques aux États-Unis. Aux États-Unis, il est bien vu de faire étalage de sa foi et de sa religion. Et d'où la difficulté de Romney, qui lui, puisqu'il sait qu'à peu près 20% ou 30% des Américains évangéliques voteraient jamais pour un mormon, donc il a intérêt, il reste discret sur le mormonisme, mais il dit sans arrêt qu'il faut, effectivement, la religion c'est très important, il faut la séparation de l'Église et de l'État est quelque chose d'excessif, il est contre, et il va cesser de dire qu'Obama est un dangereux socialiste et un laïc. Gingrich va dire la même chose. Il y a des attaques actuellement, on va parler, j'ai plusieurs discours, par exemple, de Gingrich, de Rick Perry et de Romney, où on dénonce la guerre contre la religion organisée par Obama. Donc ce sont des propos très durs et un peu démentiels, mais c'est ce qu'on trouve dans le débat politique américain. Et aujourd'hui, le débat se focalise sur la question de la contraception, puisqu'il y a un organisme fédéral aux États-Unis qui fait partie du ministère de la Santé, qui rembourse les dépenses médicales ou finance les dépenses médicales des organismes caritatifs. Ça peut être des hôpitaux catholiques ou non, ça peut être des universités catholiques, etc., mais qui prévoit dans la couverture médicale, de façon obligatoire, le remboursement des frais pour la contraception utilisée par les employés ou les étudiants de ces hôpitaux ou de ces églises catholiques. D'où colère des évêques, de la conférence des évêques catholiques aux États-Unis, qui a fait lire dans 70% des paroisses une lettre disant c'est scandaleux, c'est une atteinte à la liberté religieuse, etc., etc. Et on est maintenant, on a ce débat politique curieusement centré sur la question de la contraception aux États-Unis aujourd'hui, débat qui peut qu'étonner un Français, parce que on peut pas imaginer un homme politique qui ferait campagne contre la contraception aujourd'hui, même catholique, dans la France de 2012.
Merci Denis Lacorne, l'heure est passée, on vous aurait encore écouté largement une heure de plus. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie le titre de votre livre « De la religion en Amérique » aux éditions Gallimard, qui a été aussi traduit aux États-Unis. Vous comptez faire une édition un peu plus grosse pour le prochain, parce que
idéalement un poche, ouais. Mais qui pourrait être plus gros. Oui.
Qui aurait plus gros, parce qu'il y aurait les Obama. Ouais. Donc, eh bien, écoutez, merci bien. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et nous allons faire une légère pause musicale avant de rejoindre l'actualité européenne avec Philippe Christel. De retour dans les chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie, notre deuxième partie avec Philippe Christel. Mon cher Philippe, quelle est l'actualité de notre si belle Europe ?
Écoutez, avant de commenter l'actualité, je voudrais faire une petite annonce qui va conforter nos auditeurs dans le fait que ce qu'ils entendent dans les chroniques de la vieille Europe, c'est du sérieux, comme on dit.
Une annonce personnelle ?
Non, c'est pas du tout une annonce personnelle, c'est une annonce qui vient confirmer ce que nous avons dit à ce micro depuis bien longtemps. Et alors j'ai cherché j'ai pas fait toutes les archives, mais je suis remonté un petit peu en arrière, et dès mars 2009, nous avions exposé à nos auditeurs que nous ne croyions pas un instant dans ce projet de gazoduc Nabucco que l'Union européenne prétendait soutenir contre vents et marées.
Ça, c'est vrai.
Et ça, on ne voulait entendre dire. Reprocher de valeur. Eh bien, pour la première fois, ça y est, même le journal Le Monde a été obligé d'écrire, tenez-vous bien, sachant que c'est Le Monde qui écrit, le Premier ministre russe Vladimir Poutine a sans doute gagné la bataille des gazoducs. Pour la première fois, effectivement, les décideurs européens commencent à imaginer le fait que ce gazoduc ne verra pas le jour. En fait, ce qui se passe, c'est comme nous l'expliquions précédemment, c'est que tout simplement les Européens ne trouvent pas suffisamment de gaz pour rentabiliser leur projet, ni en volume, ni en fiabilité des pays producteurs. Et alors, les pays de transit. Ce sujet est intéressant parce que il démontre une fois de plus l'aveuglement de l'idéologie sur les réalités économiques, les réalités stratégiques. Le principe de Nabucco, c'est d'essayer de construire quelque chose qui réduirait la dépendance à la Russie. Et à quel prix est-on capable de chercher à la réduire ? Tout avait été mis, les bras de fer avaient été tenus les uns après les autres avec la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et l'Autriche qui devaient soutenir et qui ont officiellement soutenu le projet de ce tuyau de près de 4000 km de long. Et puis, en fait, on s'est quand même rendu compte que le transport c'était très bien et qu'on pouvait tordre le bras d'un certain nombre de démocraties européennes, d'Europe de l'Est notamment, mais qu'il fallait quand même mettre du gaz. Et le gaz, il était forcément, si on veut éviter le gaz russe, turkmène, iranien ou irakien, et éventuellement un apport de l'Azerbaïdjan. Eh bien, coup sur coup, c'est l'ensemble de ces dominos qui sont tombés. Alors, sur l'Iran et sur l'Irak, pas besoin d'insister sur la dimension aléatoire de ces fournisseurs. Mais les derniers en date, ce sont les Azéris qui ont largement... qui ont signé un accord avec Gazprom pour continuer à donner, à doubler même la part de gaz azéri achetée par Gazprom. Puisqu'en fait, bien évidemment, la Russie, avec des partenaires avisés, le français EDF, l'italien Eni et l'allemand Wintershall du groupe BASF, eux avaient construit le projet South Stream qui, lui, débutera fin 2012 pour livrer en 2015. Donc, et qui débouchera en Autriche et en Italie, l'Autriche ayant joué joliment double jeu sur cette opération. Donc, on peut aujourd'hui, du côté des capitales européennes, déplorer le fait que la dépendance à la Russie n'est pas près de s'éloigner. On objectera quand même qu'on a perdu une dizaine d'années, je ne sais pas combien, de torsions de bras diplomatiques pour obtenir des soutiens de pays européens.
C'est un peu d'argent aussi.
Oui, probablement un peu d'argent, mais ça doit rester marginal. Non, c'est que d'initiatives diplomatiques américaines, européennes, au sens commission de Bruxelles, pour finalement un échec qui était prévu d'avance. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que pourquoi la Russie cherche absolument à garder mainmise sur ses projets de transit ? Bah, pour des raisons d'influence qu'on comprend bien, et puis parce qu'elle a besoin absolument de ses débouchés pour financer le relèvement de son économie, mais également parce que la Russie sent bien que les découvertes de nouvelles réserves font aussi peser une menace sur sa suprématie gazière. Notamment, ce sont les projets de gaz naturel liquéfié au Qatar ou demain en Australie, mais également les énormes productions de ce fameux gaz de schiste que les États-Unis, sans aucune vergogne environnementale, se sont décidés à exploiter. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a en Europe un certain nombre de pays. Il y a la France. Je rappelle que la France, il y a quelques mois, a décidé d'annuler purement et simplement des permis qui avaient été attribués par le gouvernement en violation totale d'accords contractuels et sous la pression des écologistes. La semaine dernière, c'est la Bulgarie qui a renoncé au gaz de schiste. C'est-à-dire que sur une autre partie du champ médiatique, sous la pression du principe de précaution et des lobbies écolos de tout poil, on va renoncer à exploiter un gaz qui est chez nous et qui pourrait, si on le souhaitait, faire un contrepoint à cette dépendance énergétique à la Russie. Donc, en tout cas, dans un premier temps, je voulais saluer cette opération, puisque depuis le début, nous disons que ce gazoduc européen, atlantico-européen, n'a pas de sens, ni économique, ni politique, et nous l'avions vu, je pense, très tôt, et donc c'était une logique de congratulation réciproque sur ce sujet.
On part où maintenant en Allemagne?
L'autre sujet, c'est l'Allemagne, parce que
c'est à la mode en ce moment dans la politique française.
C'est très à la mode, mais vous savez, il y a déjà quelques... Je rappelle que les chroniques de la vieille Europe, nous avons créé cette émission il y a bien longtemps maintenant, à l'époque où Donald Rumsfeld, l'Américain, faisait la moue sur ces pays de la vieille Europe, et à l'époque où c'était esquissé au Conseil de sécurité des Nations Unies un axe Paris-Berlin-Moscou. Et aujourd'hui, mine de rien, ce qui occupe les médias français, vous prenez un journal aujourd'hui, c'est le poids de l'Allemagne dans la vie politique française et le rôle de la Russie, notamment sur la question syrienne. Et donc, on est bien au cœur de cet axe Paris-Berlin-Moscou et je vais parler de ces deux sujets. Le premier sujet que je veux évoquer, c'est l'Allemagne, parce que nous avons déjà eu l'occasion de dire à quel point il nous semblait malsain de voir revenir une fois encore de vieux relents de germanophobie. Alors, je ne sais pas si cette germanophilie toute récente du président Sarkozy doit être une raison nécessaire et suffisante pour voter pour lui. Je pense qu'il faut être vigilant, comme disent les organisations antiracistes, vigilance face au racisme anti-allemand. J'appelle mes amis antiracistes à un cri de vigilance contre le racisme anti-allemand. Je dis ça pourquoi? Alors d'abord, c'est drôle, c'est que vous qui êtes un grand spectateur d'Arte, Patrick, vous avez peut-être vu en décembre dernier ce documentaire qu'a publié Arte et qui s'intitule 1946, un automne allemand. Et je voudrais rappeler ça à nos auditeurs. 1946, automne allemand, c'est un documentaire qui a été fait par un journaliste suédois qui s'appelle Stig Dagerman. Stig Dagerman, c'est une sorte d'anarchiste compassionnel, si vous voulez. Et lui, sa théorie est simple, c'est que l'horreur d'hier ne suffit pas à justifier les souffrances d'aujourd'hui. Et donc, il promène sa caméra en 1946, à l'automne, dans les rues des villes dévastées d'Allemagne. Et il nous sort un documentaire poignant sur ce peuple allemand qui est à peine sorti du cauchemar de la guerre, qui est à peine sorti quand même d'un régime totalitaire et qui se réveille dans les ruines, dans la famine, dans la peur. Il montre Hambourg, il montre Dresde, les villes les plus bombardées du monde à l'heure à laquelle nous parlons. Il croise ces zombies marchant sur les ex-trottoirs de leur ex-rue à la recherche de leur ex-maison. Il montre les cultures de pommes de terre au milieu des décombres. Il montre le fait qu'on s'étripe et on se bouscule à chaque distribution de vivres. Il montre que faute de logement, on vit dans des caves à moitié inondées, on vit dans des carcasses de trains. Il montre également les audiences de dénazification qui sont absolument grotesques avec ces magistrats allemands qui appliquent la loi américaine et qui commencent par présenter des excuses aux accusés avant de les condamner. Enfin, on imagine bien la farce. Et il montre également, ces journalistes américains qui viennent provoquer ces pauvres Allemands en leur demandant dans leur cave inondée « Est-ce que vous viviez mieux sous Hitler ?» Il montre également, et ça nous devrions être prudents là-dessus, il montre le commentaire des actualités cinématographiques françaises qui dit « L'Allemagne récolte ce qu'elle a semé !» Voilà, en grande confraternité sur le malheur de notre voisin. Et donc, quand même, depuis 1946, que de chemin parcouru, quelle pente remontée par ce peuple maudit qui semblait ne pas devoir se relever de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je voudrais quand même que nous soyons certains, quand nous critiquons l'Allemagne, que ce que l'on peut tout à fait faire quand on voit une partie de la satellisation qui nous attend, mais que nous nous souvenions, un, d'où elle est partie, deux, du courage et de la ténacité de ce peuple à qui on a à peu près tout volé il y a 50 ans, et trois, qu'une bonne partie de leurs forces ne sont jamais liées au fait qu'ils ont pris le taureau par les cornes là où nous nous sommes complus dans nos faiblesses. Right or wrong, my country, disait Churchill, donc il ne faut pas faire d'ethnomasochisme sur notre devenir français, mais ne faisons pas des raccourcis qui seraient trop courts.
Oui, surtout ce qui est d'autant plus. On peut voir, je ne sais pas si vous allez en parler, mais en ce moment, on va peut-être les excuser parce qu'ils sont en pleine crise, mais les Grecs commençaient à être un peu nauséabonds sur leurs demandes.
Alors, c'est ça qui est très drôle. Mais figurez-vous, ouais. Patrick, qu'il n'y a pas que les Grecs.
Ah, bah non, mais tout le monde va y passer. Hein.
J'ai relevé, mais sur n'importe quoi. J'ai relevé un papier intéressant du Zeit, qui est le grand quotidien de allemand, plutôt europhile d'ailleurs, et qui s'émouvait du fait que, récemment, par exemple, à la une de Il Giornale, qui est le grand quotidien de populistes de droite italien, il y avait un grand titre qui disait « I know Schettino, a voi Auschwitz ». Donc Schettino...
J'ai compris un mot, mais pas tout, là.
Voilà. Non, mais vous avez compris Auschwitz. Vous n'êtes, ouais. Vous n'êtes pas comme, j'ai vu, 25% des jeunes Allemands qui ne savent pas qu'Auschwitz est un camp d'extermination.
J'ai vu ça, ouais.
Bon, ça c'est autre chose. Mais bref, donc Il Giornale, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il réagissait à une diatribe pas forcément très subtile du Spiegel qui caricaturait le capitaine italien du Costa Concordia, le fameux Schettino, hein, qui s'est quand même, qui a pas fait hommage à, a rendu hommage à Andrea Doria et aux autres corsaires génois, hein, qui nous ont débarrassé des Turcs. Mais enfin bon, en Méditerranée, bon, Hanoï, Schettino, à Auschwitz, sur le thème, écoutez, nous on a Schettino et vous, vous avez Auschwitz. On va en dire, quel rapport avec la choucroute, pardonnez-moi. La même chose au Portugal. Au Portugal, c'est dit ça, il raconte. Donc c'est un écrivain est-allemand qui s'appelle Ingo Schulz. Moi, je ne le connais pas, mais Ingo Schulz, il fait une, il assiste à une lecture de ses œuvres au Portugal. Et un type qui prend la parole et qui dit oui, est-ce que les Allemands vont réussir avec l'euro ce qu'ils ne sont pas parvenus à accomplir avec leur Panzer, à savoir dominer l'Europe? Pour un Portugais. Je trouve d'abord que c'est quand même, faut pas exagérer, parce que sauf erreur, les chars ont franchi la Meuse, se sont arrêtés en Charente sur la ligne de démarcation, et ils sont pas allés au-delà des Pyrénées, hein. Bref. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, on en a d'autres. On a les commentateurs qui disent oui. Alors, c'est un peu plus élégant, un peu plus subtil. Vous allez voir qui disent oui. La politique de rigueur de l'Allemagne est comparable à celle du chancelier du Reich, Heinrich Brüning. Heinrich Brüning, c'est le chancelier juste avant Adolf Hitler. Subtil. Est-ce que je veux dire est-ce que ça nous emmène donc du coup le coup d'après, blablabla. Bla, bla. Et alors également, on entend aussi parler de ce qu'on appelle le Sonderweg. Sonderweg, l'exception allemande, nous on a l'exception française, mais les Sonderweg, c'est quand le gouvernement Merkel refuse de faire marcher la planche à billets, sauf que le Sonderweg, c'est aussi, philosophiquement parlant, cette espèce de d'exemple allemand pour lequel l'aboutissement historique, c'est Auschwitz et tutti quanti. Donc ce qui est à la fois assez énervant, c'est d'avoir ce fameuse réductio ad Auschwitzam ou Hitlerum, comme on pourrait l'appeler. Mais c'est à la fois énervant, et d'un autre côté, peut-être que ça va finir par banaliser totalement cette espèce d'injure politique ou cette espèce de diabolisation absolue. Et je serais partisan de ceux qui veulent museler l'Allemagne, je me méfierais, car il se peut que ce type de réduction n'aille pas dans le bon sens. La thématique de Die Zeit, c'était quand même de dire « Nazi, nous, bah écoutez, si ça vous fait plaisir, c'est un cliché tellement éculé, pourquoi pas ?» D'autant que, et là, cette fois-ci, je termine sur l'actualité absolue, qui était la conférence de sécurité qui se tient tous les ans, vous savez, Patrick, à Munich. Là, c'était du 3 au 5 février. Et donc, on a interrogé l'Allemagne. On a interrogé l'Allemagne, alors qu'elle a été représentée par Thomas de Maizière, qui est le ministre allemand de la Défense, qui est un des plus proches collaborateurs d'Angela Merkel, et dont on cite le nom éventuellement pour prendre la place de Christian Wulff, le président de la République, qui a été salement mis en cause dans des scandales. Le boulet est passé, mais je pense que sa posture est très fragile. Bref, c'est Thomas de Maizière qui représentait l'Allemagne, et on lui dit, écoutez, comment vous voyez les choses en termes de puissance? Et d'abord, puisque la Libye, vous avez fait faux bond quand même en voulant préserver vos objectifs propres, vos intérêts propres. Suite à quoi Thomas de Maizière a dit oui, on a eu une vision peut-être personnelle des enjeux de Libye. Enfin, en tout cas, concernant l'Afghanistan, nous, on a des hommes là-bas aussi. Nous, on respectera le calendrier défini à Lisbonne, hein, donc on partira pas avant. Ça, j'ai fermé le banc, vous avez compris à qui je m'adresse.
Europe en ce moment.
Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que on pose la question sur la nouvelle politique américaine de sécurité, hein, qui privilégie clairement le Pacifique sur l'Europe. Je ne sais pas si on aura le temps, mais non, on n'aura pas le temps. Mais il faudra que je vous commente la nouvelle révision stratégique de défense américaine et les priorités dans le détail sur les forces terrestres et puis l'orientation sur les nouvelles technologies et le Pacifique sont les deux grandes autres orientations que la diminution des forces terrestres. Et donc Mézières, le ministre allemand, affirme clairement que son pays est prêt à prendre ses responsabilités. Il est resté discret et prudent sur les moyens que Berlin pourrait consacrer à une future défense européenne, mais il semble bien que cet investissement stratégique, l'Allemagne sera d'autant plus tentée de le faire que ses partenaires européens l'y inciteront et que les opinions publiques seront d'accord. À un moment donné, il faudra choisir si nous voulons bien détester l'Allemagne ou bien aimer l'Allemagne pour ce qu'elle nous apporte et ce en quoi elle va nous aider. Ça ne doit pas se faire sans échange de souveraineté, mais j'appelle franchement et sincèrement les Européens convaincus et ceux pour lesquels l'identité de l'Europe a une réalité, je les appelle à être prudents sur les jugements qui peuvent émaner, parfois peut-être du camp national au sens large, sur ce que veut faire et ce que pourrait faire l'Allemagne. Dernier sujet, parce que allez-y, on n'a pas beaucoup de temps, je voulais parler de la Russie. Je voulais parler de la Russie puisque là, on s'émeut, en gros, là, c'est la séquence syrienne. On a eu la séquence libyenne, on a la séquence syrienne, et la séquence syrienne nous prépare possiblement à la séquence iranienne. Bien.
Il y a des chances, oui, c'est vrai.
Et nous, dans le temps médiatique est un temps, est une succession de temps courts et intenses, et c'est un temps en séquentiel. Maintenant, j'invite nos auditeurs à fermer un peu les yeux, à regarder une carte, et à prendre de la hauteur. Maintenant, regardez la Russie. La Russie, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle avait, non un allié, mais elle avait un partenaire en Méditerranée qui était la Libye. On lui a fait voter deux résolutions aux Nations Unies qui ont été totalement violées par les pays, on va dire, du camp occidental. Ça nous a permis de faire une belle démonstration de nos rafales et de les vendre à l'Inde, tant mieux. Mais pour le reste, Nous avons violé l'engagement qui a été pris au Conseil de sécurité sur les interventions quasi non déguisées au sol, sur l'éradication du pouvoir kadhafiste, etc., etc. La Syrie, c'est un allié. Je rappelle que la Russie a une base en Méditerranée, c'est à Tartous, en Syrie. Enfin, l'Iran, c'est verticalement, je regarde une carte de géographie, hein, c'est dans l'axe nord-sud, c'est l'allié de la Russie pour avoir une voie au Pacifique par le détroit d'Ormuz. Donc voilà, en gros, en 6 mois, avec l'opération libyenne, la tarte à la crème syrienne, où on nous ressort les mêmes trucs, dans le même sens. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en Syrie. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le régime de Bachar al-Assad, j'en ai aucune. Je suis allé une fois en Syrie, je me suis rendu compte que c'était un pays cultivé, que c'était un pays où il n'y avait pas de McDo, et où les sites archéologiques étaient absolument superbes, et où les gens avaient l'air heureux de vivre, et que c'était pas rationné. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Ça ne suffit pas pour justifier une
dictature. Pour en faire un spécialiste.
Mais, et en tout cas, bon,
comme les journaux français.
En tout cas, quand on se met à la place de la Syrie, elle a été humiliée par la violation de la parole donnée en Libye. Elle est attaquée aujourd'hui sur son alliance avec les Syriens, son alliance avec les Iraniens. Au même moment où, ça fait 3 mois que l'opinion publique occidentale est rameutée parce que une dizaine de milliers d'opposants, pour des raisons tout à fait louables, font du bruit dans une république de 130 millions de citoyens. Et on sait très bien que, notamment le nouvel ambassadeur américain, relayant les attaques de Mme Clinton, sont en pointe dans ce combat pour déstabiliser la Russie. Et donc, n'importe quel étudiant de première année en fac d'histoire ou en fac de sciences politiques sait que, depuis des siècles, l'obsession de la Russie, c'est l'accès aux mers libres de glace par la Baltique, et l'accès aux mers chaudes, à la fois donc sa politique en mer Noire et dans les Balkans, mais également du coup en Méditerranée, et là pour le coup sur le bord du Pacifique. Et donc je voudrais qu'on comprenne, et là je m'adresse aux gens intelligents et donc à nos auditeurs, que forcément la Russie n'est pas en train de sécuriser des opérations de vente d'armes avec des dictateurs, parce qu'entre dictateurs c'est plus simple. De grâce, dépassons ce cliché. Et c'est pour ça d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, c'est que les Russes viennent de programmer un exercice militaire qui s'appelle Caucase 2012, qui est prévu en septembre 2012, et qui vise à sécuriser les flancs sud de la Russie. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est confirmer la mise en garde donnée par la Russie contre les scénarios de frappes aériennes contre l'Iran qu'elles viennent des États-Unis ou d'Israël, le parti pris étant de dire il faut que nous puissions nous assurer, nous prémunir de toute rupture de communication avec nos importantes bases militaires, notamment il y a une base militaire russe très importante à Goumri qui est en Arménie et qui est non loin de la frontière de l'Iran. En tout cas, ces exercices sont beaucoup plus importants que ceux de 2008 qui ont été menés dans le Caucase du Nord. Et d'ailleurs, il est prévu que les bases russes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie y prennent part de manière à réaffirmer encore plus l'emprise de Moscou dans ces régions. Et donc, voilà, petit aperçu, c'est très rapide, c'est très bref, petit aperçu géopolitique. Je vais terminer simplement, on a glosé sur le fait que Marine Le Pen était invitée d'honneur au bal du FPE à Vienne. En fait, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est que Christian Strache, qui est le patron du FPE, a de chances réelles de gagner les élections. Aujourd'hui, il est à 28% des intentions de vote, au même niveau que le Parti social-démocrate. Il talonne le chancelier Freiman démocrate. Et donc, la question se pose qui est le FPE peut-il devenir le prochain chancelier ? Alors, je vous cite le directeur du quotidien conservateur Die Presse, c'est l'équivalent du patron du Figaro, qui a dit « Oui, M. Strache est un ancien néo-nazi, mais c'est un brave garçon qui ne va pas déclencher une nouvelle guerre mondiale. Les esprits évoluent. » En tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'à ce bal du FPE, comme ce que nous avions connu à l'époque, mais cette fois-ci c'était Bruno Maigret qui avait représenté les droites nationales françaises. Et exactement. Eh bien, il y avait autour du FN le FPE, le Vlaams Belang, les souverainistes de la droite conservatrice comme UKIP britannique, les nationalistes slovaques, les Suédois, les Grecs et les Hongrois bien évidemment. Et donc il y avait là une petite dans ces grands salons d'honneur de la Mitteleuropa, dans cette ville qui fut la capitale de l'Europe et qui reste une des plus belles capitales de l'Europe. Il y avait toutes les droites nationales. C'était, j'espère, un bon présage. En tout cas, une bonne ouverture de l'année 2012. N'en déplaise aux journalistes.
Oui, surtout que s'il gagne les élections, bah, peut-être que le futur chef de l'État pourra être obligé d'aller valser à Vienne. Merci à vous, Philippe Christel et Lucien Valdès. C'est fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur Denis Lacorne sur le site vieilleurope.fr ou la réécouter jeudi soir. Bonne soirée sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.